Bonjour à toutes et à tous. Suite à la pandémie de coronavirus qui touche la planète entière, Emmanuel Macron, président de la République française, annonçait le jeudi 12 mars à la télévision que les écoles seraient fermées à compter du lundi 16 mars. De son côté, le ministre de l'Éducation nationale, M. Blanquer, annonçait qu'il y aurait un dispositif Nation apprenante continuité pédagogique qui serait assuré à distance entre les élèves et leurs professeurs. Qu'est-ce qui se cache derrière ce titre un peu ronflant de Nation apprenante, continuité pédagogique ? Il s'agit en fait de l'école à la maison, via Internet. Cependant, de nombreux parents ont craint que ne s'accroissent des inégalités déjà existantes, notamment dans les quartiers populaires. En effet, la possession d'un ordinateur et d'une connexion Internet ne figure pas du tout dans le matériel qui est demandé aux élèves en début d'année. Il a donc été sous-entendu dans cette annonce que tous les foyers français devaient en être équipés. Outre la fracture numérique, les élèves issus des quartiers populaires souffrent d'inégalités sociales. Le décrochage scolaire y est beaucoup plus conséquent qu'en centre-ville. Des parents allophones, illettrés ou analphabètes ne sont pas en mesure d'assurer l'enseignement de leurs enfants. Et même au-delà de ces problèmes liés à des environnements familiaux ou sociaux défavorables, est-ce vraiment le rôle des parents que d'assurer le travail des professeurs ? Professeur des écoles est un métier, ça ne s'improvise pas. Il s'agit de savoir faire preuve de pédagogie et de suivi pour accompagner les enfants et les élèves vers les savoirs qui leur sont nécessaires, tant pour leur intégration professionnelle dans la société future, mais également pour forger la citoyenneté des individus. Voilà le thème que nous allons aborder au cours de cette émission. Nous allons tenter de comprendre pourquoi la continuité pédagogique a été mise en place, quels sont ses objectifs, et nous allons nous pencher notamment sur la situation des élèves issus des quartiers prioritaires de la ville, quartiers sensibles ou quartiers populaires, comme vous voudrez. De nombreux parents se sont demandé également si les apprentissages dont bénéficieraient leurs enfants durant cette période seraient évalués à la rentrée. En quelque sorte, est-ce que cette continuité pédagogique se substituerait au travail des professeurs ? Je vous propose d'écouter une émission réalisée avec Jean-Hugues Brinon, qui est à la fois chargé de mission à la CARDI et coordonnateur sur le réseau d'éducation prioritaire d'Orléans-la-Source. Nous commençons tout de suite avec une interview de Monsieur Fix, principal du collège Jean Rostand et responsable éducation nationale pour la cité éducative Orléans. Bonjour Monsieur Fix.
Bonjour.
Bonjour.
Pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste la cité éducative sur le quartier de l'Argonne et à Orléans plus généralement ?
Alors la cité éducative, l'objectif c'est de fédérer des acteurs qui interviennent sur les deux quartiers de l'Argonne et de la Source, je serais tenté de parler un petit peu du patronage de la mairie d'Orléans, puisque c'est un label qui revient à la mairie d'Orléans, en fait, la cité éducative. Mmh. Et le but, c'est de mieux travailler ensemble pour être plus efficace auprès des enfants. Alors, quand je dis les enfants, ça peut être aussi des grands-enfants, puisqu'en fait, on travaille des tout-petits jusqu'à aux jeunes qui ont quasiment une vingtaine d'années pour voir si l'insertion dans le monde du travail se fait bien. Donc c'est vraiment une démarche qui vise à mieux travailler ensemble sur un territoire qui a des besoins particuliers.
Voilà, qui a commencé en septembre 2019 avec un budget global de 100 000 euros. D'autres chiffres qui concernent combien d'enfants et de jeunes au total ? Vous auriez quelques chiffres ?
J'ai pas les chiffres sous les yeux, je suis désolé, je suis pas capable de vous répondre sur ce point précis. Ça concerne le collège de l'Argonne et les deux collèges de la Source, ainsi que toutes les écoles qui sont rattachées. Et il faut ajouter également les deux lycées de la Source, lycée Voltaire, lycée Gauguin, et le lycée Benjamin Franklin, qui, bien que n'étant pas sur les deux quartiers, reçoit quand même une part importante d'élèves qui viennent du quartier de l'Argonne. Et à ce titre, il fait aussi partie de la cité éducative. Donc c'est évidemment plusieurs milliers de jeunes avec leurs familles, si on ajoute les familles, qui sont concernées par ce projet.
On a interviewé beaucoup de vos collègues qui nous ont expliqué comment ils avaient mis en place donc la continuité pédagogique durant le confinement. Quelles sont les difficultés, vous, que vous avez rencontrées dans votre établissement ?
Alors la première chose que je vois, c'est que les enseignants ont su très vite s'adapter et modifier leur façon de travailler parce que c'était quand même brutal, hein, le 13, on a basculé vraiment dans une autre façon de travailler. La difficulté qu'on a rencontrée, elle est dans un premier temps technique. C'était avant que les enfants partent en confinement, d'essayer d'avoir un maximum de contacts, de réactualiser les contacts avec les familles et les élèves pour être sûr de ne pas les perdre. Ensuite, on a eu plusieurs temps. On a eu une première semaine qui était une semaine, je dirais, plus technique. On a eu l'impression de faire un métier qui s'apparentait plus à la hotline, puisqu'en fait, on passait des journées entières à appeler les familles pour les aider à se connecter aux outils numériques de travail, en fait. Ça, c'était vraiment la première semaine, avec des dizaines d'appels par jour. Pour aider les familles à utiliser des outils qu'elles n'utilisent pas forcément de façon quotidienne habituellement. Et par la suite, sur la deuxième semaine, on est plus passé sur un travail qui consistait toujours à assister les familles, mais peut-être moins sur le côté technique et peut-être davantage sur un aspect motivation et essayer de guider un peu sur le travail à faire, parce que on a assez vite vu des petits signes d'essoufflement chez les élèves.
Alors,
Et ça reste le travail qu'on mène actuellement, parce que dans la durée, bah, pour les enfants, c'est compliqué. Et au-delà de la difficulté technique, ce qu'on voit peut-être maintenant, c'est plus des problèmes d'organisation. C'est des enfants qui ont tendance à dormir de plus en plus tard. Donc, c'est des journées qui commencent à se décaler. Et à s'éloigner du rythme scolaire habituel.
C'est ce que soulignait votre collègue, Monsieur Kervella, sur le collège Montesquieu, quand on lui demandait la meilleure consigne déjà, conseil à donner aux parents, c'était de, dans la mesure du possible, de garder un rythme de travail comme un sportif. Il a fait cette comparaison-là, et de garder justement ses habitudes de travail.
Je pense que du côté des enseignants, du côté de l'éducation nationale, nous, il faut qu'on soit prudent, c'est-à-dire qu'il faut qu'on garde le contact avec les enfants et les familles en ayant à cœur de donner des activités accessibles et en quantité raisonnable, parce que sinon, on va décourager les enfants qui vont se retrouver confrontés à des exercices qu'ils peuvent pas faire ou à des quantités de travail qui vont juger trop importantes. Donc, si on veut garder le contact, il faut de notre côté qu'on soit raisonnable sur la charge de travail et sur l'accessibilité. Et puis, c'est vrai que du point de vue des familles, la principale tâche des familles, c'est de garder ce rythme de vie il peut pas être exactement le même. On va pas faire un emploi du temps. On va pas demander aux enfants de se lever à 7 h moins le quart comme d'habitude, si c'était le cas. Mais d'avoir quand même un rythme de vie où on a des activités programmées le matin, où on a un repas, à mon avis, qui se déroule à une heure qui ressemble à l'heure habituelle quand on est en période scolaire, et que ce soit pas justement un glissement vers quelque chose qui ressemblerait aux grandes vacances, parce que c'est pas les grandes vacances.
D'autant plus qu'il va y avoir là une période de 15 jours de vacances qui va peut-être accentuer ce problème de rythme.
Bah, ce qui pourrait être bien, c'est que cette période de vacances ressemble vraiment à des vacances, parce que je pense qu'il serait important que les enfants et les adultes aussi puissent avoir un vrai temps de coupure, parce que c'est nécessaire, hein. Et j'imagine que cette période de confinement, même si on n'en est pas tous conscients, mais elle génère aussi du stress chez les personnes. Et donc probablement aussi une fatigue nerveuse pour les parents, une forme aussi de fatigue pour les enfants. Et je pense qu'une période pendant laquelle on est réellement en vacances et où on peut ne plus se soucier de la dimension scolaire, je pense que ce serait utile pour ensuite redémarrer. On ne sait pas ce qu'il en sera après la période de congé, mais pour que on puisse à nouveau poser des exigences et puis redémarrer avec des objectifs d'apprentissage et de travail intellectuel.
Alors, le ministre de l'Éducation nationale, M. Blanquer, avait parlé de 5 à 8% d'élèves qui sortent des radars, qui ne sont plus suivis. Alors, on pourrait transformer les chiffres en disant qu'il y a entre 92 et 95% des élèves qui suivent, j'allais dire, cette continuité pédagogique. Comment est-ce que vous envisagez le retour pour ces élèves, justement, qui auront échappé des radars? Et en plus, vous faites pas, donc vous êtes principal d'un collège. C'est souvent dans ces tranches d'âge qu'apparaissent les situations de décrochage scolaire. Donc des élèves qui étaient déjà en situation de décrochage scolaire, qui le sont d'autant plus du fait du confinement et qui sortent des radars, comme le disait le ministre. Comment envisagez-vous pour ces élèves la reprise?
Alors pour l'instant, moi je suis assez satisfait d'une certaine manière parce que on n'a pas un chiffre aussi important d'élèves perdus si on reprend l'expression du ministre. Moi là, quand je fais le pointage, j'ai réellement 4 enfants sur 507 pour lesquels j'ai vraiment un souci de liaison. Je n'arrive pas à rentrer en contact avec ces enfants ou avec leur famille depuis le 16 mars. Mais tous les autres ont échangé avec les enseignants, ont produit du travail. Donc j'ai pas cette inquiétude. Non, alors simplement, on continue à progresser. Ce matin, si on s'était posé la même question, je vous aurais indiqué que j'avais deux familles de plus qui m'inquiétaient. Et depuis, on a réussi à raccrocher ces familles, à comprendre ce qui posait problème. Et notamment pour une des deux familles, on va mettre à disposition un ordinateur, puisque on a cette opération du conseil départemental qui va nous permettre de prêter des ordinateurs dans les situations les plus problématiques pour les familles.
Très
Alors,
bien.
Dans les discussions qu'on a eues, pardon Daniel, Monsieur Fix, discussions qu'on a eues avec vos collègues ou des directeurs d'école, ce qui était, et ça s'est confirmé encore tout à l'heure avec Monsieur Sachinski qu'on a eu, il disait que ce confinement et tout ce qui est fait en direction des familles pour conserver le lien, ça améliorait justement les relations. Il y avait plus de liens, en fait, et de confiance entre les parents et l'école. Vous le constatez, vous aussi, à travers vos équipes?
Je crois qu'il faut toujours qu'on essaie de trouver un petit peu de positif dans ce type d'expérience et de périodes compliquées. Et effectivement, je pense que les familles, à travers ce que je décrivais sur tous ces appels qu'on a pu passer pour les aider sur un plan technique, tous ces échanges qu'on a pour, pareil, essayer de remotiver les enfants, parce qu'on a souvent aussi les enfants en direct au téléphone qui sont un peu surpris d'avoir le principal qui les appelle pour leur demander comment ça va. Et puis j'imagine aussi tous les échanges avec les professeurs qui utilisent des outils via Internet pour entrer en contact et puis pareil, s'inquiéter de savoir comment vont les enfants. Je pense qu'effectivement, ça montre vraiment une dimension partenariale dans le travail et on pourra certainement construire des choses sur cette base-là pour plus tard parce que ça va changer un petit peu aussi la vision de la relation entre le collège et les familles et les élèves et ce sera certainement un plus pour la suite. Non, mais donc même si je vois du positif, j'aimerais bien que les élèves reviennent le plus vite possible au collège parce que quand même, faut pas non plus que cette situation se prolonge très longtemps et puis ce sera quand même compliqué de maintenir une motivation dans la durée. Donc je pense que les enfants, et ils l'ont exprimé auprès des professeurs souvent, hein, ils ont dit bon, c'est vrai que d'habitude on aime bien les vacances et puis on rechigne un peu à travailler, mais là c'est un peu long et on aimerait bien quand même pouvoir revenir en cours. Donc je pense que ça va aussi leur donner une nouvelle appétence au redémarrage.
Le contact avec les pères, avec leurs pères, doit leur manquer aussi, hein.
Ouais, certainement, énormément, oui.
Surtout à cet âge.
Et puis,
âge,
il faut pas. Ouais. Et puis, je pense aussi qu'au niveau de, parfois, dans les familles, il y a le confinement et puis cette question du travail scolaire, ça peut créer des tensions parce que les parents sont amenés à faire quelque chose qu'ils savent pas bien faire et c'est normal. Ils sont pas professeurs, hein, et donc ça peut les mettre en difficulté parce qu'ils se demandent aussi comment faire, s'ils font bien. Donc tout ça peut générer des tensions et on sait qu'en milieu confiné, les tensions, ça peut rapidement crisper des situations et c'est pas une bonne chose de trop prolonger ce type de configuration.
Est-ce que le travail à distance, donc avec les outils informatiques, a suscité chez certains élèves, j'allais dire comment, via l'aspect ludique aussi de l'outil informatique, un intérêt qui n'existait pas pour l'école et le collège?
Alors, pour nos élèves, il y a quand même une difficulté, c'est que déjà dans le cadre de la classe, il y a souvent, on note une forme d'incompréhension des consignes. Ça peut être un blocage sur du vocabulaire ou des choses comme ça. Et dans ces moments-là, le professeur peut rapidement aider l'élève. Donc là, cette difficulté sur les consignes, on la retrouve quand même bien à distance. Sur des choses qui sont intéressantes, on a vu des élèves qui d'habitude sont très discrets, on pourrait même dire effacés dans le fonctionnement de la classe, qui se sont affirmés à travers le fonctionnement à distance. C'est-à-dire que quand il y a une sorte de classe virtuelle, et ben on a des élèves qui se sont affirmés. On voit aussi des élèves qui ont des compétences techniques. Des fois, c'est eux qui ont aidé les enseignants par rapport à des manipulations que tout le monde ne maîtrisait pas bien. Et donc, c'est aussi très gratifiant pour des élèves d'être un petit peu en position d'expert et puis pratiquement de conseiller l'enseignant et puis d'aider les camarades pour que les choses se passent mieux.
Merci.
Merci, à très bientôt.
Nous recevons à présent Noëlle Page, coordinatrice Cité éducative à Orléans et également responsable du dispositif réussite éducative sur les quartiers prioritaires d'Orléans, à savoir l'Argonne et la Source. Bonjour, Madame Page.
Bonjour.
Bonjour, Madame Page.
Alors,
Bonjour, Monsieur Brinon.
Monsieur Blanquer a mis en place Nation apprenante, continuité pédagogique. Comment est-ce que ça se passe de votre côté? Pour suivre les actions que vous aviez déjà mises en place, donc depuis la rentrée 2019, c'est bien ça?
Alors, effectivement, les services de réussite éducative et la cité éducative ont mis en place des actions depuis la rentrée 2019, mais dans le cadre du confinement, ces actions, ces activités sont mises un peu, sont confinées. Et par contre, ce que nos collègues éducateurs spécialisés font, c'est qu'ils ont maintenu le lien avec les familles que nous suivions, c'est-à-dire que chaque semaine, ils appellent les familles pour voir si tout va bien, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs difficultés, comment on peut les aider. Et c'est beaucoup de conseils, d'écoute des familles et des enfants pour les aider à traverser cette période compliquée et cette période où effectivement faire le travail scolaire à la maison, c'est pas facile pour eux. Ça met des parents très en difficulté. Et donc, on est là pour essayer de soutenir les parents, de faire qu'ils ne se dévalorisent pas par rapport à ce qui est demandé et qu'ils gardent bien leur place de parents et non pas d'enseignants. Voilà.
Quelles tranches d'âge sont concernées?
Alors, la réussite éducative, c'est du 3 à 16 ans, et la cité éducative, c'est du 0 à 21 ans, mais dans les faits aujourd'hui, puisque la cité éducative est toute nouvelle à Orléans, nous n'avons pas encore déployé nos moyens sur les tranches d'âge d'enfants non scolarisés.
Combien d'enfants sont concernés au total?
Aujourd'hui, nous avons à peu près 1000 enfants concernés par ces deux dispositifs sur Orléans.
Sur la réussite éducative.
Alors, réussite éducative, éducation spécialisée, puisque nos collègues de l'éducation spécialisée sont aussi concernés par les enfants. Donc, ça représente 1000 enfants suivis régulièrement par ces deux services.
Et combien avez-vous d'éducateurs spécialisés à disposition pour assurer le suivi de ces 1000 enfants?
Alors, c'est toujours très difficile de donner ce genre d'éléments parce que nos éducateurs, effectivement, ne font pas les activités avec les enfants. Pour faire les activités avec les enfants, nous recrutons en vacation les intervenants. Mais les éducateurs spécialisés qui sont là pour écouter, conseiller, renseigner les parents, ils sont 14 à la prévention spécialisée et ils sont 4 à la réussite éducative. Donc voilà, c'est vraiment un travail d'équipe qui est mené, puisque les vacataires qui travaillent à la réussite éducative représentent à peu près 200 personnes sur l'année. Donc vous voyez, dire combien d'éducateurs travaillent ne veut pas donner, ne donne pas, pardon, une image réelle du travail qui est fait, puisque les éducateurs s'occupent vraiment d'un travail avec les parents, et nos intervenants vont plus travailler sur les activités avec les enfants.
Des activités qui permettent de mobiliser les savoirs et les compétences des enfants. On pourrait par exemple évoquer l'art-thérapie, si je ne me trompe.
Voilà, tout à fait. Nous avons des art-thérapeutes, nous avons des psychologues, nous avons des sophrologues, nous avons des thérapeutes familiaux. Et tous ces intervenants, voilà, vont plus travailler sur le bien-être et sur le vécu de l'enfant, lui permettre d'être disponible pour les apprentissages. Et à côté de cela, nous avons un grand nombre d'intervenants qui vont être là plus sur du tutorat qu'une présence adulte, aux côtés de l'enfant pour le conseiller, pour éveiller ses désirs, pour lui permettre de mettre des mots sur ses envies, sur ses besoins. Et nous avons aussi des intervenants qui sont là pour l'aider plus sur le travail scolaire, mais en ne faisant pas du scolaire, hein. Nous ne sommes pas des enseignants et nous ne pouvons pas remplacer les enseignants. Donc nous essayons de trouver d'autres chemins pour permettre aux enfants d'aborder le scolaire de façon différente.
Alors, à l'instar des enseignants, les éducateurs et intervenants extérieurs qui interviennent sur ce dispositif assurent une présence physique qui est nécessaire, notamment pour assurer une communication qui ne passe pas que par les mots, une communication aussi qui peut passer par, des grimaces qui font comprendre à l'intervenant que l'enfant n'a peut-être pas bien compris la consigne ou alors ne va pas très bien. Enfin, il y a une dimension humaine qui n'est plus possible à cause du confinement. Des interventions aussi, j'allais dire, dans des activités physiques ou alors manuelles qui ne sont plus possibles du fait du confinement. Et donc, vous assurez, pour pallier à ce déficit, un contact, un lien avec les familles. Et vous disiez tout à l'heure qu'elles expriment des besoins, des difficultés. Alors, quels sont ces besoins, ces difficultés? Vous avez déjà évoqué celui de la dévalorisation. Vous pourrez peut-être nous en dire un peu plus. Mais quels sont les besoins et difficultés exprimés par les familles?
Alors effectivement, un grand nombre de familles se retrouvent donc confinées. Les appartements ne sont pas toujours de dimension, de grande dimension, donc tout le monde se retrouve un peu les uns sur les autres. Par exemple, pour faire le travail scolaire, même quand il y a un ordinateur à la maison, quand il y a plusieurs enfants de différentes tranches d'âge, il faut bien organiser toute la journée. Hein. On a une famille qui nous expliquait que les plus grands commencent à 7h le matin et finissent à 21h pour que laisser dans la journée le temps aux plus petits de pouvoir avoir accès à l'ordinateur. Il y a ça. Donc là, je dirais à la limite, ce sont les meilleurs. Mais il y a bien sûr des familles qui sont suivies par la réussite éducative et le service de prévention. Le service éducatif de prévention, pour d'autres problématiques qui sont plus de problèmes de fragilité familiale. Et donc là, nous sommes en lien, même aujourd'hui, avec les services sociaux du département. Nous essayons de soutenir et là aussi d'écouter les familles de façon à ce que des drames n'arrivent pas pendant cette période de confinement. Et là, effectivement, le scolaire est bien relayé au second plan.
Est-ce que, justement, Madame Page, là, vous avez eu des retours ou des constats de famille, alors, ce qui n'est pas trop le cas parmi les différents collègues que nous avons eus au téléphone sur les différentes écoles. Alors, pour l'instant, on n'a eu que des directeurs principaux ou proviseurs sur le quartier de la Source, mais on doit avoir aujourd'hui des personnels de l'éducation nationale de l'Argonne, hein, donc toute la cité éducative. Et quelles sont justement les problématiques, les retours plus précis quand vous n'arrivez pas à les joindre, quand vous n'avez pas de contact avec ces familles? Alors, on essaye de travailler ensemble, hein, on l'a déjà fait, on le fait régulièrement, a fortiori en cette période de confinement, mais... Comment on peut faire?
Oui, alors et c'est effectivement ce que nous avons pu faire au début du confinement. Maintenant, les choses sont établies, mais au début du confinement, on a pu travailler avec les responsables des établissements scolaires, qu'ils soient des écoles ou les collèges, pour superposer les listes des enfants qui, des familles qui étaient entre guillemets transparentes par rapport à l'établissement scolaire. Et que nous connaissions. Et là, effectivement, nous avons pu faire une médiation, nous avons pu faire un relais avec ces familles et nous avons pu mettre en lien certaines familles avec l'école qui n'avaient pas réussi cela. Parce que, alors, on n'est pas plus fort que l'Éducation nationale, mais nous avons une autre relation avec les familles, nous avons un autre lien et ce lien, nous avons pu l'utiliser pour faire ce relais. Et
quel est votre bilan après plus de 2 semaines de confinement? Comment évaluez-vous la situation aujourd'hui?
Alors, aujourd'hui, on fait des constats différents pour les publics qui sont en élémentaire, pour lesquels les difficultés étaient moins ancrées. Et là, dans l'absolu, on va dire, ça ne se passe pas trop mal de là où nous sommes, c'est ce que nous voyons. Pour les collègues de la prévention spécialisée qui ont affaire à des enfants, enfin des jeunes un peu plus, des jeunes, des collégiens qui ont des grandes difficultés ou des jeunes qui sont sortis du dispositif éducatif, ils nous disent qu'actuellement, du coup, comme le sujet scolaire n'est plus au cœur de leur relation aujourd'hui, ça leur permet d'avoir une relation différente avec ces jeunes et ça leur permet d'aller sur des terrains sur lesquels ils ne pouvaient pas aller auparavant puisque tous les sports étaient occupés par le scolaire. Donc finalement, ça peut permettre, alors on verra après, mais ça peut peut-être, cette période aura peut-être permis à certains travailleurs sociaux de renforcer le lien qu'ils avaient avec certains jeunes.
Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer justement, ce que je ne comprends pas trop, sachant que les jeunes ne peuvent pas sortir, quel est l'objet de leurs échanges, plus scolaire?
Oui, mais notre travail, c'est un travail éducatif, donc beaucoup plus large que le scolaire, n'est-ce pas? Nous travaillons vraiment sur la dimension humaine et le scolaire n'est qu'une partie. On a coutume de dire qu'on travaille sur tout ce qui est hors scolaire pour permettre à l'enfant, aux jeunes de réussir à l'école. Et donc les collègues peuvent effectivement parler avec le jeune de son mal-être, de ce qui fait barrage justement à son implication scolaire, de ce qui préoccupe, de ses relations intrafamiliales, des difficultés qu'il y a dans les familles. Tout cela aujourd'hui a plus d'espace dans les échanges avec nos collègues de la prévention spécialisée qu'ils ne pouvaient en avoir voilà quelques semaines.
Bon, on a hâte, bien sûr, que ce confinement s'arrête.
Oui, bien sûr.
La collaboration qui a été entamée avec cette nouvelle cité éducative, qui était, comme l'a dit Noël Page, quelque chose de nouveau, mais qui commençait à se mettre en place. À suivre.
Oui. Il y a plein d'actions qui sont en projet et qui n'attendent que la fin du confinement pour pouvoir se déployer sur ces deux quartiers de l'Argonne et la Source.
Alors, ce sera ma dernière question, justement. Comment envisagez-vous la fin du confinement? Après, donc, il y aura un déconfinement qui sera peut-être progressif, nous a-t-on dit récemment. Comment envisagez-vous le retour?
Alors, aujourd'hui, de là où je suis, je ne peux pas vous répondre. C'est effectivement le travail que nous avons engagé dans les services concernés au niveau de la mairie d'Orléans. Nous réfléchissons actuellement à qu'est-ce qu'il va y avoir à mettre en œuvre à la sortie de ce confinement. Et c'est vraiment le brainstorming que nous mettons en œuvre actuellement au niveau des services. Et là, je ne pourrais pas vous en dire plus à l'heure où je vous parle.
Une question à laquelle je n'avais pas pensé. Alors peut-être que certains jeunes, justement, ont été, touchés par ce confinement, notamment avec les forces de l'ordre, j'imagine, dans des quartiers où il n'est pas facile, dans des appartements où il n'est pas facile de rester confiné. Peut-être que certains jeunes ont été confrontés aux forces de l'ordre. Vous avez vu des retours?
Il y en a bien sûr, mais ça n'est pas la majorité. Nous, ce que les collègues peuvent faire remonter, c'est que justement, les enfants qui sont souvent réfractaires aux consignes et qui ont du mal à les respecter, et bien là, non, les respectent. Là, aujourd'hui, ce que nous, les collègues, alors effectivement, on n'est pas dans un monde de bisounours, hein, bien sûr qu'il y a encore des jeunes dans la rue et qui sont dans leur trafic, mais pour les enfants que nous suivons, ces jeunes, donc je disais, qui étaient réfractaires aux consignes, eh bien aujourd'hui, les respectent plutôt bien. Je crois qu'ils ont vraiment été sensibilisés aux messages qui ont été diffusés et que le risque pour leur santé a été, ils l'ont vraiment perçu et aujourd'hui, ils le respectent plutôt bien à notre étonnement, vraiment.
Bon, bah très bien. Puis c'est l'occasion de faire preuve de solidarité citoyenne en plus.
Exactement, j'ai entendu parler effectivement que certains jeunes pouvaient essayer, réfléchir à déployer des actions sur les quartiers ou en direction de l'hôpital. Voilà, ils essaient, ils se sentent concernés par les besoins que peuvent avoir les personnels de l'hôpital et j'ai entendu dire qu'ils étaient en train de réfléchir à des formes d'action qu'ils pouvaient mener pour venir en aide. Et au personnel de l'hôpital.
Très bien, d'accord.
Voilà des choses extrêmement positives.
Et oui, ils ont l'exemple d'aînés en plus dans le quartier de l'Argonne qui œuvre déjà auprès des plus démunis. Hein. Je pense à l'association Coupe Faim, Coupe Froid, Passe Emploi Service.
Exactement.
Très bien.
Tout à fait, oui, absolument. Voilà.
Merci Madame Page. À présent, nous allons écouter une interview de Monsieur André Jwalzinski, directeur de l'école du Nécotin à l'Argonne. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous avez mis en place la continuité pédagogique dans votre établissement ?
Suite au confinement, donc.
Suite au confinement,
oui. Alors, on s'est organisé dès le vendredi, hein, et chacun a mis en œuvre les moyens qui semblaient être les plus faciles pour lui, c'est-à-dire qu'ayant 15 collègues, chacun avait ses préférences, donc certains ont préparé des dossiers papier pour que les enfants puissent avoir du travail pour une voire deux semaines à l'avance, donc ce qui a créé un embouteillage sur le temps du midi et du soir, surtout le temps du midi pour que les enfants repartent avec du travail. Heureusement, à l'école, nous avons deux photocopieurs et d'autres matériels d'impression, ce qui nous a un petit peu facilité la tâche. Ensuite, on s'est fait fort de récupérer les adresses mail de tous les parents. Là, ça a été un petit peu plus compliqué parce que avec 260 et quelques élèves, ça ne facilite pas la tâche quand on n'a qu'une ligne de téléphone. Malgré tout, ça a pris un petit peu plus de temps, donc on y est parvenu. Hein, parce que certains, donc, comme je vous disais, ont préféré travailler sur le support papier, présumant que les familles n'avaient pas tous les moyens d'imprimer. Et d'autres ont récupéré des adresses mail et ont créé des classes virtuelles ou des espaces de partage de travail, ou encore ont préféré envoyer du travail par voie de mail.
Alors, il faut préciser, Daniel, que, alors, autant sur la source, on est en REP, Réseau d'éducation prioritaire, sur l'Argonne et sur le quartier où est l'école de M. Jwalzinski, on est en REP plus, c'est-à-dire un peu plus de difficultés sociales.
Est-ce que vous avez réussi à garder un contact avec toutes les familles ?
Non. Globalement, je dirais oui, dans la plus grande partie, dans la majeure partie des cas, ça a été possible de créer, de garder un contact. Là, justement, je réponds à une enquête de la rectrice qui nous demande ce qu'il en est des prises de contact et puis des retours avec les familles. Je n'ai pas fait de pourcentage.
Pardon, on a perdu la liaison. Vous n'avez pas fait de...
Je n'ai pas fait encore. Je n'ai pas encore pu calculer le pourcentage de retour efficient de contact avec les familles. Mais globalement, c'est à une très, très grande majorité qu'on réussit à établir ce contact et de reprendre du travail pour les élèves.
Alors, ce que disent les collègues avec lesquels on échange, alors là, je parle de la source, mais vous allez nous dire si c'est la même chose un peu pour vous, ce ressenti. C'est-à-dire que les collègues arrivent à joindre pratiquement 100% des familles, voire à travailler en ligne quand ils ont le contact avec les outils dont vous avez parlé, pratiquement avec toutes les familles. Mais par contre, leur principale interrogation, c'est que des fois, ils n'ont pas le retour forcément de savoir qui travaille effectivement.
C'est ça, c'est un petit peu ça chez nous, mais ça reste quand même, je dirais à la marge, la très grande majorité réussit à récupérer le travail sous différentes formes, que ce soit télématique ou papier. Hein, on a sur une permanence dans les écoles une fois par semaine pour les familles qui sont en difficulté là-dessus. Moment-là, elles viennent déposer le travail qui a été donné précédemment et elles viennent en récupérer pour la période à suivre. Après, il reste quelques familles pour lesquelles nous n'avons aucun contact, d'autres avec lesquelles il est compliqué de savoir si le travail est reçu, s'il est fait, si l'espace virtuel de la classe qui a été créé sur Internet et utilisé parce que ça a été validé une fois, mais il n'y a aucun travail derrière qui est enregistré. Voilà, globalement.
D'accord. Le
D'accord.
ministre, pardon, excuse-moi.
Vas-y, vas-y,
Le
Daniel.
ministre de l'Éducation, M. Blanquer, évoquait l'autre fois le chiffre de 5 à 8% d'élèves qui sortent des radars, c'est-à-dire dont les professeurs ont perdu la trace. Et par ailleurs, en échangeant avec le directeur d'une école l'autre fois, il craignait aussi que certains élèves ne reviennent pas en classe, enfin que les parents n'envoient pas leurs élèves en classe au retour, par crainte de la propagation du virus, hein, qui perdurera malgré le déconfinement. Quelles sont vos craintes, vous, concernant le retour, enfin concernant la reprise des cours?
Les craintes, elles sont simples. C'est le décrochage, la crainte avec les élèves les plus faibles du décrochage, comme on peut l'avoir avec les familles qui reviennent après 2 mois de vacances d'été, dans la pratique de la langue, dans la mise au travail. Parce que là, je pense qu'on se dirige vers un confinement relativement long. Et on n'a pas de soucis ni de craintes particulières avec les élèves qui travaillent et que les parents font travailler. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc on a une crainte essentielle qui est le grand écart qu'il va y avoir entre les plus faibles et les élèves qui sont suivis.
Est-ce que vous songez déjà à des moyens d'y remédier?
Non, pas encore. Je pense que je vais attendre. Là, on a nos premières réunions d'équipe en télétravail, en visioconférence demain. On va envisager un petit peu la suite. On aime bien anticiper les choses, donc on verra ce qu'on mettra en place pour eux.
Il est évoqué, Daniel, par le ministère et a confirmé, mais des stages sur les deuxièmes semaines, la deuxième semaine des vacances pour les élèves dont les équipes auraient repéré qu'ils sont déjà un peu à la traîne ou en difficulté ou en décrochage par rapport aux activités qui sont menées tant bien que mal en ligne, en lien avec l'enseignant de chaque classe.
Des stages de sous quelle forme ces stages?
Ah ben ça c'est à voir parce que ça sera en distanciel, donc ça ne changera pas la problématique, mais bon, c'est quelque chose qui est à l'étude, bien sûr.
Très bien. Alors, vous parliez justement de réunions d'équipe pour étudier les moyens de remédier à cette distance qui s'accroît du fait du confinement. Est-ce que vous envisagez, par exemple, aussi une collaboration encore plus étroite avec les dispositifs de réussite et de cité éducative? Ou alors, comment est-ce que vous les intégrerez dans la boucle?
Alors, c'est un moyen qui est. Les cités éducatives sont un moyen nouveau pour nous. Donc, je pense que c'est plus dans le sens de la pédagogie du projet qui va entraîner des effets un petit peu collatéraux comme l'augmentation de la confiance en soi, de l'estime de soi, C'est un moyen de valoriser un petit peu l'école et l'élève au milieu de l'école. Après, dans le cadre des moyens, ça n'a pas, je pense pas que ce soit le but des cités éducatives de remédier à la difficulté scolaire en offrant des cours, par exemple, ou des moyens pédagogiques directs. Ça revient aux enseignants.
Alors, peut-être qu'ils peuvent faire office de médiation, par contre.
Ben, pourquoi pas, rien n'est fermé. Hein. Voilà.
On a l'habitude de travailler avec la réussite éducative et donc depuis peu, mais tout ça doit se mettre en place avec la cité éducative et proposer justement des activités eh bien, sur les deux quartiers que sont l'Argonne et la Source. Voilà.
Tout reste à inventer.
Tout reste à faire.
Alors après, je pense que ce qui sera important pour les enseignants, c'est de recréer du lien là, maintenant, avec leurs élèves, peut-être en utilisant des moyens visio, comme voilà. Je pense que les élèves ont besoin de voir leurs enseignants. Donc là, maintenant, il reste à créer les outils, les moyens, de façon à ce que ça soit possible. Donc je ne sais pas comment ça peut se faire, mais je pense que ça pourrait être quelque chose qui pourrait motiver et relancer les élèves dans l'attitude d'un élève à l'école. Ça, c'est quelque chose qui est nouveau et qui reste peut-être à inventer.
Ok.
Merci, monsieur Smolenski.
Ben, de rien, c'était un plaisir.
De rien.
Pendant qu'on discutait, je faisais mes petits calculs. Effectivement, je suis dans les pourcentages hein, de ce que vous disiez tout à l'heure.
Entre les 5 et 8 %.
Oui.
D'accord.
Oui.
Ouais, ça dépend des classes, hein, en fait. Ça dépend des classes, des écoles et des familles.
Hein. Oui.
C'est très. Mais oui, sur certaines, c'est ça. Sur certaines, c'est ça. L'exemple que je donnais l'autre fois, c'était ça.
Nous avons également reçu le témoignage de Madame Isabelle Schwalzinski, directrice de l'école Charles Péguy à l'Argonne. Est-ce que vous pourriez nous faire un point sur la situation donc, de la continuité pédagogique après plus de 2 semaines de confinement des élèves, de vos élèves ?
Oui, bien sûr. Bah, écoutez, c'est très hétérogène. Il y a des familles qui sont... vraiment très connectés, qui prennent beaucoup de contact avec les enseignants, qui sont presque en lien, bon, peut-être pas quotidiennement, mais beaucoup plus d'une fois par semaine, en tout cas des liens téléphoniques, des liens par mail, et puis des retours de travail, et puis aussi ben, des familles qu'on arrive très peu à joindre, qui ne font pas de retour. Voilà, donc c'est assez hétérogène, on va dire.
Comment vous expliqueriez ce silence radio de certaines familles ?
Je pense qu'il y a des familles qui sont dans la difficulté. Il y a des problèmes techniques aussi. On a des parents qui n'ont possèdent que leur téléphone pour faire le lien avec l'école. Mmh. Et c'est difficile de travailler, c'est difficile de travailler en ligne à partir d'un téléphone. Mmh. Je pense que... plus l'enfant est petit, plus c'est difficile de travailler sur un téléphone. Et puis, il y a des familles qui ont aussi un seul support pour plusieurs enfants. Des parents, le téléphone n'appartient qu'au papa, par exemple, et le papa travaille, donc il rentre que le soir. Donc, bon, ça, c'est vraiment un obstacle complexe. Et puis, je pense qu'il y a des familles qui doivent être... elles-mêmes dans la difficulté par rapport à l'aide qu'elles peuvent apporter à leurs enfants et qui n'osent pas le dire, en fait. Mmh. Qui n'osent pas nous tenir informés de leurs difficultés. Je vois récemment, j'ai eu une famille au téléphone qui m'a dit que le travail était fait, qu'il n'y avait pas de problème. Je leur ai demandé de me rapporter le travail et en fait, le travail était quasiment pas fait et puis il y avait plein d'erreurs. Bon, c'est très compliqué, très très compliqué. Pas pour tout le monde, mais pour certaines familles, vraiment. Voilà. Après, il y a des familles qui sont vraiment, qui suivent énormément. Il y a peut-être même des enfants qui vont profiter de cette situation, des enfants qui ont du mal à qui ont des problèmes de confiance en soi et pour qui le groupe peut être, le travail en classe, en groupe est parfois compliqué, qui vont peut-être en profiter, le fait de travailler avec les parents. C'est une réponse qui est très, très hétérogène.
Comment est-ce que vous envisagez le retour, donc après le confinement, le retour en classe?
C'est une grande question. C'est une grande question qu'on se pose avec les collègues. On était en réunion ce matin avec une partie de l'équipe et puis il y a 2 jours avec l'autre partie. Tout le monde se pose cette question parce qu'effectivement, il va y avoir une grande hétérogénéité dans les retours. On va avoir des enfants qui auront sûrement bien progressé, d'autres qui auront des difficultés dont il faudra tenir compte. Il faudra sûrement faire des cours de soutien. Peut-être déjà dès la deuxième semaine des vacances, comme le ministre nous l'a proposé, avec des enfants, quelques enfants, mais on aura toujours la difficulté de cette connexion, hein, parce que pour l'instant, on travaille toujours par téléphone ou par mail ou par visioconférence. Il va vraiment falloir travailler individuellement ou pratiquement. Je pense que ça va être compliqué et je ne suis pas vraiment pour l'instant en mesure de vous donner une réponse très précise, en fait.
Est-ce que pour finir, qu'est-ce que vous pourriez dire aux parents pour les rassurer justement par rapport à ça?
C'est une question. Moi, je pense que de toute façon, la situation qu'on vit chez nous, je pense que beaucoup d'écoles vont la vivre et que il va falloir que. On a l'habitude de s'adapter au niveau des enfants, de toute façon. Hein. Donc, je pense que voilà, les exigences que l'école va avoir, elles seront pas les mêmes parce que le temps qu'on vit actuellement, il est différent. Donc, je pense que les enseignants vont, comme ils l'ont fait jusque-là, s'adapter au niveau des enfants. On a proposé un travail peut-être encore plus individualisé qu'il ne l'était. Mais chacun fait de son mieux avec ce qu'il peut. Et moi, ce que j'essaye de dire aux parents, c'est dites-nous quand vous avez une difficulté.
Alors, il y a certains collègues disaient, et puis on va peut-être s'arrêter là après, mais certains collègues justement disaient que un des points, si on peut retenir des points positifs, c'était que ça renforçait le lien avec l'enseignant et avec l'école. Vous le confirmez?
Ça dépend vraiment de la personnalité des parents et des enseignants. Il y a beaucoup de collègues qui me l'ont dit, oui. Ils ont des contacts avec les parents qu'ils n'avaient pas avant et des complicités avec certaines familles qu'ils ont découvertes, oui, tout à fait. Et il y a des collègues qui en sont vraiment ravis, quoi. Ils réussissent à créer un lien qu'ils n'avaient pas avant. Mais bon, après, voilà, ça dépend des enseignants.
Oui, tout à fait. Mais c'est un point qui, justement, peut permettre d'aller plus loin après, de rebondir et de reprendre.
Ah, bah, c'est clair que les familles qui ont accepté de créer ce lien, je pense qu'elles ont encore plus confiance à l'école que par le passé, mais effectivement, elles sont, quand on les appelle, même lorsque c'est moi qui les appelle en général, c'est parce que le lien n'arrive pas à se faire avec les enseignants ou par le mail, etc. Et en fait, elles sont vraiment contentes qu'on prenne contact.
Alors, comment vous l'expliqueriez, excuse-moi Jean-Hugues, mais comment vous l'expliqueriez? Est-ce que c'est parce que les échanges dépassent un peu, j'allais dire, le cadre scolaire? Vous en profitez pour prendre des nouvelles? Comment ça se fait que ce lien se renforce?
Oui, je pense que il y a des enseignants, oui, qui discutent, bon, bien sûr, du travail des enfants. En tout cas, c'est le but premier. Mais ensuite, on prend des nouvelles sur comment va la famille, comment les activités différentes, enfin, qui ne sont pas purement scolaires, sont mises en place. Et les gens, on parle de sa vie, un peu, de sa vie au-delà de l'école, voilà. Et donc, il y a des familles qui font vraiment bien ce lien-là, et des collègues aussi.
Des échanges plus individualisés, j'allais dire, peut-être même plus intimes parfois.
Voilà, complètement individualisés. C'est clair que lorsqu'un enseignant appelle, ou lorsqu'on appelle une famille, ou qu'une famille appelle les enseignants, parce que les enseignants, pour beaucoup, ont donné leur numéro de téléphone personnel. C'était le seul moyen pour que les familles puissent les contacter, parce que le mail, c'est pas, le mail, ça reste quand même très informel, Et donc, ça crée effectivement une relation différente. Parce que quand on donne son téléphone personnel, voilà, il y a quand même un minimum de confiance qui s'instaure entre les uns et les autres. Et il n'y a aucun abus en plus. Jusque-là, mes collègues m'ont dit vraiment, les gens sont respectueux. Ils ne vous appellent pas le soir à 22h ou le week-end. Ça reste quand même dans des horaires qui sont... à peu près ceux de l'école. Il n'y a pas d'abus.
Merci Madame Chwalinski. Voilà, cette émission est terminée. Bonne fin de journée à toutes et à tous.